Il est 23h.
Le journal.
Une page va se tourner aux Pays-Bas. Après 33 ans de règne, la reine Béatrix a annoncé son abdication ce soir à La Haye. Son fils, le prince Willem-Alexander, lui succédera sur le trône le 30 avril prochain. L'opération militaire au Mali enregistre un deuxième succès en 3 jours. Après Gao, les forces françaises et maliennes ont repris Tombouctou aujourd'hui. La police suisse répond aux critiques et à la prétendue lenteur des services de secours lors de l'accident de Quart-de-Sierre en mars dernier. Les policiers diffusent une vidéo pour se justifier et se montrer transparents. Chez nous, les travailleurs d'ArcelorMittal se sont réunis en assemblée générale ce matin à Ougré. Ils ont voté pour la reprise du travail mercredi, mais ne vont pas lever le pied pour autant sur le front des manifestations. Ils seront demain à Namur. David Riffon au micro, bonsoir à tous. L'annonce a donc été faite en début de soirée. La reine Béatrix des Pays-Bas a annoncé qu'elle abdiquait après près de 33 ans de règne. C'est une page qui se tourne chez nos voisins néerlandais. Béatrix avait accédé au trône en avril 1980. Elle avait succédé alors à sa mère Juliana. La passation officielle de pouvoir aura lieu lors de la prochaine fête de la reine, le 30 avril prochain également. Un discours de quelques minutes ce soir que la reine a tenu depuis son palais de La Haye.
Het is met het grootste vertrouwen dat ik op 30 april van dit jaar het koningschap zal overdragen aan mijn zoon, de prins van Oranje. Hij en prinses Maxima zijn ten volle op hun toekomstige taak voorbereid. Ze zullen ons land met toewijding dienen, getrouw de grondwet onderhouden en met al hun talenten een eigen invulling geven aan het koningschap.
La reine qui explique que c'est avec la plus grande confiance qu'elle cédera le trône le 30 avril prochain. Son fils Willem-Alexander, prince d'Orange, le prince et son épouse, la future reine, donc Maxima, sont parfaitement, dit-elle, préparés à la tâche qui les attend. Ils serviront le pays et seront garants de la constitution et avec leur talent, ils rempliront pleinement la fonction royale. La reine qui ne part pas pour raisons médicales, mais qui affirme qu'à 75 ans, un anniversaire qu'elle fêtera d'ailleurs ce jeudi, il est temps pour elle de passer la main au sein de la population. On se prépare à un grand changement comparable à celui que vivraient les Belges en cas d'abdication du roi Albert II. Sur place, à Amsterdam, plusieurs réactions. Elles sont recueillies par notre correspondante Sophie Van Leeuwen.
Les Néerlandais adorent la reine Béatrix. Son départ, annoncé en début de soirée, fait mal.
Ze moet een opvolger hebben, ze is 75 tenslotte. En toch, ja.
Nous sommes tous tristes. Il est vrai qu'elle a besoin d'un successeur, qu'elle a bientôt 75 ans. Mais quand même, tout ce qu'elle nous a donné, des bonnes choses, la confiance. Son fils, Willem-Alexander, devient roi. On en a beaucoup parlé. Il faut qu'il gagne la confiance du peuple néerlandais, comme sa mère. Pas facile.
Ik vind het een enorm mooie traditie en de koningin is een voorbeeld geweest voor Nederland, voor het land.
Pour moi, c'est une belle tradition. La reine a été un exemple pour notre pays, les Pays-Bas. Elle a beaucoup d'importance pour nous tous. La fête de la reine, le 30 avril, c'est la plus belle fête de l'année.
27 april net zo mooi gaat worden als 30 april nu.
On aime cette tradition ici. Au revoir, reine Béatrix. Au revoir.
Le prince Willem-Alexander, vous l'avez entendu, 45 ans, premier fils de la reine, va donc lui succéder. Son portrait avec Laurent Chambon, politologue à Amsterdam.
Il a un profil de néerlandais moyen qui angoisse un peu les gens parce qu'il n'est pas très brillant, mais en même temps les rassure parce qu'il est un des néerlandais. Et surtout, un de ses points positifs, c'est sa femme, la princesse Maxima, qui va devenir la reine Maxima. C'est la première fois que la femme du roi devient reine. Et elle, c'est une femme très éduquée, très intelligente et très appréciée par les Néerlandais. C'est la plus populaire de la famille royale. Et donc, on sait que la reine Béatrice a accepté que son fils devienne roi parce qu'il est épaulé par la future reine Maxima. Donc.
Vous dites qu'elle va devenir reine. Ça veut dire quoi en termes institutionnels? C'est un changement par rapport au passé?
C'est-à-dire qu'elle n'est plus une espèce de pot de fleurs à côté du roi, mais elle va régner avec le roi. C'est-à-dire qu'on a un couple qui va régner. On n'aura pas seulement une personne avec un prince ou une princesse à côté. Ça veut dire peut-être aussi que les pouvoirs, c'est-à-dire les responsabilités vont être partagées. Et ça va peut-être dire aussi que les devoirs royaux vont être moins lourds pour le roi parce qu'il va pouvoir partager avec la reine.
Le politologue Laurent Chambon, contacté par Marc Molitor. Au Mali, les armées françaises et maliennes ont franchi un deuxième cap important en quelques jours dans la reconquête du nord du pays. Après la ville de Gao, ce week-end, les forces armées ont repris la ville mythique de Tombouctou, aujourd'hui occupée par les djihadistes depuis plusieurs mois. Dans leur fuite, les islamistes ont toutefois mis le feu à un bâtiment qui contenait de précieux manuscrits datant parfois de plus de 12 siècles. Le président français François Hollande a affirmé en début de soirée que les armées françaises et maliennes étaient en train de gagner la bataille.
Nous sommes en train de gagner cette bataille. Notre intervention a non seulement été décisive pour arrêter les terroristes, mais a permis d'enclencher une solidarité de toute l'Afrique et de protéger les populations civiles de toutes les exactions. Nous veillons aussi à ce que les contingents africains puissent maintenant se déployer pour prendre le relais de l'armée malienne et de l'armée française. Le Nord Mali est encore sous le contrôle des terroristes. Et donc, ce seront les Africains, comme je l'avais indiqué, qui feront en sorte de permettre au Mali de retrouver son intégrité territoriale. La France n'a pas vocation à rester au Mali. Une fois que l'intégrité territoriale aura été retrouvée, les Français ne seront là que pour encadrer et former.
François Hollande qui sous-entendait que la ville de Kidal dans l'extrême nord du pays pourrait être reprise ou tentative de reprise en tout cas par les Africains eux-mêmes. Nouvelle soirée de tension en Égypte. Plusieurs centaines de manifestants ont décidé de braver le couvre-feu instauré hier par le président Mohamed Morsi face aux violences de ces derniers jours. Des heurts ont éclaté ce soir notamment à Ismaïlia, une des trois villes concernées par le couvre-feu, des violences qui ont fait un mort. La plus grande transparence, la réponse de la police suisse ne s'est pas fait attendre, critiquée récemment par les parents des victimes de l'accident de car de Sierre. Des parents qui, après avoir vu cette vidéo, ont remis en question la rapidité d'intervention des secours. La vidéo de l'accident de car qui a coûté la vie à 28 personnes, dont 22 enfants en mars dernier, est désormais sur le net. Les images du choc ont toutefois été enlevées pour d'évidentes raisons éthiques. Le chef de l'information et de la prévention à la police cantonale valaisienne a donc présenté et commenté la vidéo. Comme le montrent les images, la patrouille de police est intervenue près du bus entre 8 et 10 minutes après le choc frontal. Mais 10 minutes qui ont l'air interminables. On ne voit que le bus encastré et quelques automobilistes qui font de leur mieux pour gérer. Fabrice Gérard.
Les images sont glaçantes, elles ne montrent pas le crash mais un autocar comme rangé sur la bande d'arrêt d'urgence du tunnel alors qu'il est encastré. Quelques secondes plus tard, on aperçoit une silhouette, celle d'un enfant qui saute de l'autobus par une vitre brisée. Les voitures passent le long de la carcasse de l'autobus, quelques-unes s'arrêtent, dont un couple de fribourgeois qui tentent de prêter secours aux victimes. Ces images sont commentées par Jean-Marie Bornet, le chef de l'information et de la prévention à la police cantonale valaisanne. Il veut montrer que la police et les secours sont arrivés en un laps de temps très court sur les lieu de l'accident et non en 45 minutes comme l'ont indiqué certains parents d'enfants décédés dans la presse.
Je ne sais pas comment est-ce que vous fonctionnez au niveau des secours en Belgique, mais je crois pouvoir dire que d'intervenir pour les agents sitôt alertés en 8 à 9 minutes en ayant réussi aussi à sécuriser le tunnel pour éviter des collisions en chaîne et d'autres drames, à mon avis, donc pour la Suisse, c'est quelque chose de rapide, on peut le dire.
En diffusant ces images, l'objectif de la police suisse n'est pas la polémique, mais bien d'appeler et les cicatrices de familles qui ont perdu un enfant lors de ce tragique accident.
Chez nous, la fin de la grève chez ArcelorMittal à Liège. La décision a été prise ce matin par les travailleurs réunis en assemblée générale à Ougrée. Ils étaient entre 1500 et 2000. Les travailleurs ont donc voté en faveur de la fin de la grève. Le travail va reprendre mercredi. Une grève entamée jeudi dernier après l'annonce des fermetures de 7 lignes de production du groupe sidérurgique. Mais les métallos ont aussi décidé d'aller manifester demain à Namur et Martial Gio. D'autres actions et manifestations devraient suivre.
À main levée et à une écrasante majorité, ouvriers et employés d'ArcelorMittal ont décidé de reprendre le travail mercredi. Mais ils restent évidemment mobilisés, prêts à débrayer lorsque des actions seront décidées. En début d'assemblée, Robert Rouzeau, le président de la délégation FGTB, a rappelé la liste des outils menacés de fermeture et conclu que
l'ensemble du bassin de Liège est menacé. Donc il n'y a plus lieu non plus ici d'avoir des gens qui se sentent peut-être à l'abri ou pas à l'abri. Je pense qu'on a aujourd'hui quelque chose qu'on doit absolument définir entre nous. C'est une solidarité et une mobilisation complète de l'ensemble du personnel.
Le premier objectif, ce sera donc ce mardi Namur et le siège du gouvernement régional pour les syndicats d'ArcelorMittal. Après les intentions affichées vendredi au Lambermont, les politiques doivent à présent s'engager clairement et rapidement. David Camerini, président de la délégation CSC.
Le politique ne doit plus être spectateur qu'il a été pendant plus de 15 mois. Il doit être acteur et trouver une solution pour le maintien d'une activité sidérurgique à Liège. On va mettre une pression maximale.
Faire pression à la fois sur les politiques et sur le groupe ArcelorMittal.
À tous les niveaux, il faut jouer.
Dans le viseur, par exemple, Luxembourg est le siège du groupe ArcelorMittal, ou Strasbourg est le Parlement européen.
Toujours au chapitre social, avec 11 000 faillites en 2012, la Belgique a d'ailleurs battu un bien triste record. Principales victimes, les indépendants et les TPE, les très petites entreprises submergées par les responsabilités parfois mal formées. Beaucoup de patrons ne réalisent pas à temps qu'ils sont en grande difficulté. C'est pour répondre à ce problème grandissant que la région wallonne a confié à l'agence de stimulation économique la création d'un centre pour entreprises en difficulté. Explication Thierry Van Gulik.
Vous êtes patron d'une PME ou indépendant et vous ne savez plus vers qui vous tournez pour sauver votre activité. Le centre pour entreprises en difficulté est fait pour vous. Vincent Bovy, directeur général de l'agence de stimulation économique qui pilote le centre.
Non seulement de nombreuses entreprises sont en difficulté, il y a aussi des entreprises qui ne se rendent pas compte qu'elles sont parfois en difficulté et qu'elles le sont réellement. Donc l'objectif n'est pas d'attendre nécessairement la dernière minute, mais véritablement d'être vraiment là pour essayer d'anticiper les situations de crise et de pouvoir les prendre le plus en amont possible.
Vous composez le 0800 35 222 et vous trouvez quelqu'un qui va d'abord vous écouter et vous aider à réaliser une première analyse de vos problèmes.
L'orienter vers les avocats ou vers des experts comptables et des spécialistes financiers et comptables et qui vont essayer d'amener un plan d'action.
Et qui vous accompagneront durant 8 semaines maximum, le temps d'analyser votre problème en profondeur et de vous aider à vous remettre sur les rails ou à vous conseiller d'arrêter. Jean-Marie Compère, président des comptables fiscalistes.
Parfois, il vaut mieux arrêter l'hémorragie parce qu'il faut bien se dire qu'un indépendant qui va vers une faillite entraîne tous les fournisseurs, entraîne des sous-traitants. Donc, on a parfois intérêt à conseiller l'arrêt de l'activité.
Mais avant d'en arriver là, beaucoup d'entreprises peuvent être remises à flot, comme le prouve la réussite du même centre installé à Bruxelles. En économie aussi, prévenir vaut mieux que guérir.
C'est dit. Et le numéro du Centre pour entreprises en difficulté est le 0800 35 222. 0800 35 222. En football, je vous rappelle l'élimination ce soir de la République démocratique du Congo à la Coupe d'Afrique des Nations. Les Congolais de Dieu merci Mbokani, buteurs sur pénalty, ont été tenus en échec pour la troisième fois, un partout ce soir contre le Mali, qui se qualifie pour les quarts de finale. Le Ghana a lui aussi validé son billet en écartant facilement 3-0 le Niger. Au rayon des transferts, l'Ivoirien Didier Drogba, qui dispute lui aussi la CAN, rejoindra ensuite le club turc de Galatasaray pour un an et demi. Il quitte donc le club chinois de Shanghai Shenhua. Et puis chez nous, l'Israélien Arbitman quitte la Gantoise pour Mons. C'est un attaquant. Les Dragons ont donc trouvé un successeur à Jérémy Perbet jusqu'à la fin de cette saison. Et puis la Belgique espérait se distinguer à la Coupe du Monde de pâtisserie. C'était à Lyon, en France. 22 pays concouraient dans le cadre du Salon international de la gastronomie. Et pas de chance pour nos couleurs. La France s'est imposée devant le Japon et l'Italie. L'équipe française s'est lancée sur le thème des 24 heures du Mans avec une pièce en sucre représentant la déesse ailée, trophée de cette course mythique. Pour les Belges, 8e du classement final, ce sera, comme on dit, pour une prochaine fois. Il est 23h13, c'est la fin de ce journal. D'autres informations à minuit.
Les rediffusions de la nuit.
La première. Le Grand Mag.
Caroline Veit.
Laurent Dehaussay.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle semaine du Grand Mag. Littérature et humour sont entre autres au menu ce matin. Un nouveau roman pour David Fuenquinos, l'auteur de La Délicatesse, entre autres, nous revient avec Je vais mieux, histoire de la descente aux enfers et de la renaissance aussi, d'un type un peu trop docile, souvent passif et auquel un mal de dos persistant va offrir l'opportunité de donner un nouveau souffle à sa vie.
Le prix première cette semaine nous emmène sur les traces d'un homme qui y part, sans laisser de traces précisément. Il nous raconte un monde glacial d'où l'espoir n'est pas tout à fait absent. Toutefois, je n'ai de goût qu'aux pleurs que tu me vois répandre. Et signé Sébastien Bonnemaison Richard.
Il y aura de l'humour, je vous le disais, avec un humoriste qu'on voit peu chez nous malgré ses origines. Sous sa mise impeccable, élégante et gage de sérieux, Walter écorche chacun d'entre nous. Il se veut plus absurde que cynique, mais n'a rien contre une filiation avec Pierre Desproges. Nous le recevons tout à l'heure pour Belge et Méchant, bientôt en tournée chez nous.
Et puis les chroniqueurs du jour, Thierry Belfroy au rayon BD et Dominique Raguet pour l'album de Josie Wells. Merci de votre présence.
Le Grand Mag. Sur la première.
Et c'est David Fuenquinos que j'ai le plaisir de recevoir ce matin dans le Grand Mag. Votre 10e roman, Je vais mieux, vient de sortir. Bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est l'histoire d'un homme qui est pris d'un soudain mal de dos, persistant, il a mal, il a peur aussi. Et sur le plan strictement médical, eh bien, on ne lui trouve rien. Un mal de dos qui va être le début d'une descente aux enfers et puis d'une renaissance aussi. Vous croyez à ça, à cette nécessité de plonger pour mieux remonter, David?
Je crois surtout en l'idée qu'à un moment donné dans sa vie, c'est bien de regarder les choses en face. Et mon personnage, voilà, qui a une vie plutôt douillette et confortable, ne s'est jamais remis en question, ne s'est jamais posé les bonnes questions. Et j'aime bien que ça soit à cause de ce mal de dos, à cause finalement d'une manifestation du corps à travers une douleur, que voilà, tout dérape et qu'il voilà, il se met à réfléchir, à mener une enquête sur sa propre vie. Parce que forcément, cette douleur n'est pas sans raison. J'aime bien l'idée, voilà, que... Il y a forcément peut-être l'accumulation de non-dits, de frustrations.